pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et puis toute la semaine en rediffusion sur des radios associatives qu'on remercie et salue au passage. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez nous appeler aussi ou nous envoyer des SMS au 07 53 10 31 95. Vous trouvez aussi nos émissions, nos journaux, nos articles et des lettres de personnes enfermées et de leurs proches sur notre site l'envolée.net. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à contact@l'envolée.net et aussi nous retrouver sur X, Facebook et Instagram. Donc l'envolée, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est cette émission de radio hebdomadaire et un journal qui paraît 2 à 3 fois par an et qui, depuis 2001, donne la parole aux personnes enfermées, à leurs proches, pour construire, bah, depuis les lieux d'enfermement, une critique de la prison et de son rôle dans le système de domination économique qu'on vit à l'extérieur. Et donc c'est une émission et un journal qui sont contre toutes les prisons, que ce soit les maisons d'arrêt, les maisons centrales, les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative, mais aussi toutes les formes d'enfermement qui s'étendent au dehors. Et donc on fait ça en relayant la parole des personnes enfermées, de leurs proches, en faisant des comptes rendus d'audience, des analyses de lois répressives. Et voilà, vous pouvez donc retrouver tout ça sur notre site internet. Et donc aujourd'hui, vendredi 10 avril 2026, c'est une émission préenregistrée, donc il n'y a personne dans les studios. Et on va vous passer deux audios. D'abord, on va vous passer des prises de son qui ont été faites le 14 mars lors des manifestations annuelles contre les violences policières et les violences d'État. Donc c'est dans la suite de l'émission de la semaine dernière où on était revenu notamment sur les mobilisations pour Elhassen Diarra qui a été tué par des policiers dans le 20e arrondissement à Paris. Et on en avait discuté avec Moussa, donc du collectif Justice pour Elhassen Diarra, et Fatou du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc vous pouvez retrouver cette émission sur notre site. Et donc dans la suite de ces discussions, on va passer des prises de parole qui ont été faites aux manifestations du 14 mars, mars 2026 à Paris et à Lyon. Ensuite, dans la deuxième partie de cette émission, on va vous repasser en entier une émission de Minuit Décousu, qui est une émission de Radio Canu, une autre radio associative militante à Lyon, et qui revient sur l'affaire dite du 8-12, donc du 8 décembre, qui, pour rappel, c'est l'arrestation, donc le 8 décembre 2020 de 8 personnes, puis finalement 7 qui vont être mises en examen par le parquet national antiterroriste et qui vont être jugées plus tard après qu'une partie d'entre eux ait fait pas mal de prison, pour certains plus d'un an à l'isolement. Et donc on avait longuement parlé pendant de cette affaire. On avait lu à cette antenne les lettres notamment de Libreflow pendant qu'il était enfermé à l'isolement. On avait aussi reçu Manu qui était venu nous raconter ses 11 mois d'incarcération. Et on avait aussi suivi le procès qui s'était tenu à Paris il y a 2 ans. Et donc les 7 inculpés avaient fait appel de la décision, notamment pour contester leur inscription au FIJET, c'est-à-dire au fichier enfin des auteurs d'infractions à caractère terroriste, donc qui les fichaient comme terroristes, ce qui quand même était quelque chose qui allait les suivre toute leur vie. Et donc cet appel se tient dans un mois, là, en mai 2026 à Paris. On appelle à s'y rendre et à faire du bruit autour de ce procès. Il y a besoin de soutien financier, logistique, il y a besoin de faire parler de cette affaire parce que, encore une fois, c'est l'illustration de la façon dont la justice antiterroriste est utilisée à des fins policières et politiques. Dans un autre registre, nous, on en a parlé à l'automne dernier, qu'on était revenu sur le procès de l'attentat de Condé-sur-Sarthe, et on montrait à ce moment-là comment là la justice antiterroriste servait à construire une affaire, à élaborer, à imaginer des réseaux, et donc à aussi foutre des peines à 2 chiffres à des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec les faits. Donc voilà, et là c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont été reconnus coupables d'associations de malfaiteurs terroristes, alors qu'une partie ne se connaissent pas, que la justice elle-même a reconnu qu'il n'y avait aucun projet identifié ou prémédité. Mais voilà, encore une fois, c'est les mauvaises intentions qui suffisent à condamner. Donc voilà, on va écouter, donc comme je disais, tout d'abord les prises de parole des manifestations du 14 mars dernier à Paris et Lyon, puis on mettra un peu de musique, et donc ensuite on enchaînera sur cette émission de Minuit Décousu, qui est la deuxième. Vous pouvez retrouver sur leur blog la première, où les mêmes personnes revenaient plutôt justement sur leur arrestation et leur interrogatoire dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret pendant 96 heures. Et là, dans cette deuxième émission, ils reviennent plutôt justement sur le procès qui s'était tenu à Paris, devant la cour antiterroriste, et aussi plus largement sur comment l'antiterrorisme est utilisé pour réprimer les luttes sociales aujourd'hui. Voilà, donc on vous laisse avec ce programme et on vous souhaite une bonne écoute.
Chers collectifs, chères familles qui refusent de se taire, aujourd'hui, je ne suis pas physiquement parmi vous à Paris, mais ma voix est ici. Ma douleur est ici et mon combat est le même que le vôtre. Je prends la parole en tant que mère, la mère d'Idir Médérès. Le 9 septembre 2020, mon fils est mort au mitard de la maison d'arrêt Lyon-Corba, 2 semaines avant sa sortie. On m'a appelé pour m'annoncer que mon fils s'était suicidé. mais une mère connaît son enfant. Quand j'ai vu le corps de mon fils, j'ai vu des traces, j'ai vu des hématomes, j'ai vu des blessures. Et surtout, j'ai vu le silence qui commençait déjà à se refermer sur lui. Depuis ce jour, je pose des questions, je demande la vérité. Et depuis ce jour, je me heurte trop souvent à un mur. Parce que quand certaines familles demandent la vérité, on les écoute. Mais quand ce sont des familles comme les nôtres, on nous demande d'accepter, de nous taire, de tourner la page. Mais comment tourner la page quand le livre de la vérité n'a même pas été ouvert? Il faut avoir le courage de dire les choses, que le racisme tue, et il se cache dans les institutions. Quand les contrôles se répètent toujours sur les mêmes visages, quand les violences touchent toujours les mêmes quartiers, quand les morts suspectes concernent trop souvent les mêmes enfants. Alors oui, il faut avoir le courage de le dire, il existe un racisme systémique que notre société doit regarder en face. Et la justice doit ouvrir les yeux, elle doit se réveiller. Parce que la justice ne peut pas être rapide pour condamner et silencieuse quand il s'agit de chercher la vérité. Lorsqu'un État protège le silence plutôt que la justice, c'est la confiance du peuple qui meurt. Nos enfants ne sont pas des dossiers, ils ne sont pas des statistiques. Nos enfants avaient des visages, nos enfants avaient des rêves, nos enfants avaient des familles qui les aimaient. Idir était un jeune homme généreux, protecteur, plein de vie. Il aimait profondément sa famille, il aimait faire sourire ses frères et sa sœur, il était toujours prêt à aider les autres. Et aujourd'hui, son absence est une douleur que rien ne pourra effacer. Mais je refuse que sa mémoire soit enterrée sous le silence. C'est pour cela que j'ai créé le collectif Idir Espoir et Solidarité, parce que la douleur peut détruire, mais elle peut aussi devenir une force. Pour défendre la dignité humaine et une force pour soutenir les familles. Et pour dire que personne ne doit perdre sa vie dans l'indifférence. Je veux remercier aujourd'hui tous les collectifs, tous les militants, toutes les associations qui sont ici. Je veux remercier le réseau Entraide, Vérité et Justice, parce que quand les familles sont seules face aux institutions, la douleur peut les écraser. Mais quand elles se rassemblent, elles deviennent une force que plus personne ne peut ignorer. Je veux saluer les familles qui se battent depuis des années, les mères qui refusent d'abandonner, les pères qui continuent à demander la vérité, les frères et les sœurs qui portent la mémoire de leurs proches. Votre courage est immense. On nous demande souvent pourquoi nous continuons, et la réponse est simple. Parce que le silence protège l'injustice. Et parce que la vérité ne sort jamais toute seule. Il faut la chercher, la réclamer, il faut parfois la crier. Nous demandons simplement ce qui devrait être normal dans une démocratie, la vérité, la transparence et la justice. Tant que des familles attendront des réponses, nous continuerons à nous lever. Tant que les injustices existeront, nous continuerons à parler. Et tant que la vérité sera cachée, nous continuerons à nous battre. Parce que la dignité humaine n'a pas de couleur et que la justice ne doit pas avoir deux visages. Et parce qu'aucune mère ne devrait avoir à se battre pour connaître la vérité sur la mort de son enfant. Pour y dire, pour toutes les victimes, pour la vérité et la justice.
Merci d'abord à tous et toutes d'être présents. Je vois du monde et ça fait plaisir. On doit marcher ensemble aujourd'hui. Je me présente, je suis Émilie, la belle-sœur de Yanis. 20 ans, tout comme Adam. Assassiné après avoir rencontré la police. Lui, il était sur un scooter dans sa rue. Et des policiers qui s'ennuyaient, parce que souvent on tue par ennui dans la police. Une voiture de la BAC qui s'ennuyait a décidé de le pourchasser. De le pourchasser jusqu'à certainement lui faire du mal et le pousser à prendre en contresens une autoroute à quelques centaines de mètres de notre domicile. Malheureusement, les blessures ont été fatales et après 49 jours de coma, il nous a quittés. Ces 49 jours où nous étions complètement abasourdis, nous ont permis de réfléchir à une chose, à nous organiser tous ensemble. Saint-Denis, avec lequel j'ai construit un collectif qui s'appelle Stop Violence Policière, et j'invite toutes les villes de France et tous les villages de France à s'organiser ainsi pour lutter contre les violences d'État, contre les crimes d'État, contre la fascisation de nos mairies, contre l'impunité que cela implique, car nous sommes tous concernés, nous, êtres humains, avec ou sans papier. Nous sommes leurs premières victimes et nous le resterons tant que nous ne ferons rien, tant que nous ne serons pas ensemble, main dans la main, poing levé, à lutter pour la vérité, pour la justice, pour le respect de nos droits et pour notre dignité. Alors pour l'humanité entière, marchons aujourd'hui ensemble, partout en France et partout dans le monde, et continuons à le faire tant que la police existera et tant que les crimes continueront d'exister.
L'esclavage des Noirs étaient, ont subi. Aujourd'hui encore, le corps des Noirs et des Arabes est encore suspect. Quand on lutte contre les violences policières, on doit lutter contre les violences coloniales également. On doit mettre stop, on doit dire stop à ce système capitaliste, occidental et patriarcal, colonial. Encore aujourd'hui, ils nous font la guerre. Encore aujourd'hui, ils continuent à nous tuer. Nous, les familles de victimes, on dit stop. Et on ne continuera plus à être leurs victimes. On n'a jamais été leurs victimes et on ne sera jamais leurs victimes. Force à toutes les familles, force à toutes les associations, force à la société civile. C'est nous qui ferons bouger les choses et c'est nous qui changerons les choses.
Bravo, merci beaucoup.
Safia Tou, 17 ans. Salif, 13 ans. Et Ilan, 14 ans. Je suis désolée, je ne peux pas oublier que après les avoir renversés, ben, ils ont choisi de ne pas les soigner. Ils ont choisi de ne pas les soigner. Ils ont choisi de s'arranger entre eux pendant plus d'une heure et demie en plein Paris. Safia Tou, ça a des conséquences en fait dans la vie. Quand tu as 17 ans, tu finis dans le coma pendant 2 mois. Et tu reviens. Parce qu'en fait, c'est vrai, je suis désolée, avec toute l'humilité, je voulais pas parler en vrai. Parce que nos 3 enfants ont survécu, ce sont des survivants, avec certes des handicaps lourds. Donc, c'est, comment dire, c'est pas la justice institutionnelle, parce que ça, c'est encore une autre violence. Quand je les regarde, ils ne font qu'être plus armés. Vous faites peur, les gars. Vous nous faites peur. Vous faites peur à tous mes enfants, à tous les jeunes. Les violences policières, c'est d'abord des contrôles aux faciès. Parce que t'as pas la bonne couleur de peau par rapport. Parce que tu portes un voile. C'est parce que tu sors d'une mosquée. C'était le cas de ces 3 enfants. Pendant le ramadan, c'est des contrôles, c'est des attouchements, c'est contre le mur. Écarte les jambes. Je te frappe. T'as pas honte d'être musulman? C'est ça qui est dit à mes enfants, à nos enfants. T'as pas le droit à tel travail. T'as pas le droit à tel salaire. C'est ça qu'on nous met dans la tête. Nos enfants survivent. Mais il y en a eu tellement d'autres, le problème c'est ça. C'est si seulement ça s'arrêtait, ça s'arrête pas. On n'a ni justice, pas de paix. Et eux, ils restent encore plus armés et encore plus armés. Les violences policières, c'est aussi des amendes. Nos jeunes sont endettés. Ils ont 16 ans, ils ont plus de 9000 euros, 80 000 euros d'amende. Comment tu veux construire un avenir avec ça dans la tête? Le racisme, ça gangrène toutes nos institutions. Et je suis désolée de vous le dire, mais nous avons tous notre responsabilité là-dedans. Réveillez-vous, regardez-vous. Le 14 mars, je suis désolée, vous ne pouvez pas oublier que c'est la journée internationale contre les violences policières. Nous marchons depuis des années parce que nous ne voulons pas oublier nos morts. Nous savons de quoi ils sont morts. Et tant que nos enfants ne seront pas en sécurité, je suis désolée, nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons pas.
Les marches, les manifestations à la mémoire de Naël, Mehdi, El Hassen, Idir, Jamel, Adam, Ryan et tous les autres qu'ils reposent en paix se suivent et rythme maintenant la vie des mères, des pères, des proches de victimes de violences policières qui restent impunies et constituent autant de violences d'État. Adam et Ryan ont été tués à l'été 2022 à Vénissieux alors qu'ils n'avaient rien fait. Les policiers n'ont apporté aucune preuve de la légitime défense qu'ils invoquaient, bénéficiant ainsi de fait de la présomption de légitime défense qui n'existe pas encore dans la loi. Adam et Ryan ont été exécutés, oui, exécutés, puisque ni armés, ni ne représentant aucune menace. Par un flic énervé, juste énervé, parce que dans l'après-midi, des jeunes avaient tenté de lui voler sa moto. Ce policier qui a commis un double homicide était accompagné de 3 coéquipiers qui, par leur silence et leur mensonge, sont complices. Ce sont des lâches qui déshonorent leur fonction. Mère d'Adam, je suis victime d'une police qui a falsifié des preuves, une police qui ment, pardon, qui a écarté des témoins, qui en a intimidé d'autres. Je suis victime d'une police toute puissante qui a la main sur l'enquête qui vise l'un de ses membres. Je n'ai rien à attendre de cette police qui, historiquement, couvre ses bavures. En revanche, je demande des comptes à l'institution judiciaire. J'attends qu'elle prenne en considération les éléments accablants qu'on lui a soumis. S'il est difficile pour un juge d'aller contre l'intérêt des policiers avec qui ils travaillent au quotidien, alors il faut autoriser la défenseure des droits que j'ai saisie et qui en a réitéré plusieurs fois la demande à enquêter. Près de 4 ans d'instruction et les circonstances dans lesquelles deux garçons ont perdu la vie et leur avenir restent inconnues. Parce que les protagonistes racontent n'importe quoi et que personne n'exige d'eux un minimum de cohérence et de rigueur. J'attends de la justice qu'elle œuvre pour la manifestation de la vérité. Je marcherai, je parlerai, je scanderai, j'écrirai, je frapperai à toutes les portes. J'userai de tous les moyens à ma disposition pour y parvenir. C'est juste une question existentielle. Avec force et détermination. Merci.
This for everyone on the trains. Everybody in their cribs. Everybody in the clubs. You're driving in your whips. I want you to pump this shit right here. Psychological records. Boxing dumb. Yeah, all my real life soldiers, put your fist up. All the players in the club, hold your drinks up. To the people in the struggle, ready to fight. To the Asians, the ladies, the blacks and whites. To my thugs in the hood, who was bending the law. To the women who was down, representing the cause. If you ain't being pissed, keep pumping your fist and say fuck that shit. Fuck that shit. If you ain't being pissed, keep pumping.
Réveillé sur Canu.
Si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer, ce serait mieux sans doute.
C'est
Il y a une légende terriblement érotico-radiophonique qui dit que nous ne connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran.
Il est 23h23.
C'est débrancher ses oreilles du monde.
Il est 23h54.
Pour les rebrancher sur un autre.
La radio la nuit, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier, quoi.
Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire? Comète venue d'ailleurs, est-ce que quelqu'un t'envoie?
Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin.
Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à vous aussi. C'est Minuit Décousu qui te parle.
On va se laisser porter dans la nuit.
Il est 3h.
La radio de nuit n'est pas mineure. Alors il y a moins de monde, mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi parce qu'ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là.
Il est 23h03 sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous écoutez Minuit Décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. Sur les sondes, c'est le son du jour cette fois-ci. Les manifestations qui ont lieu en ce moment à Minneapolis, là en l'occurrence, devant un hôtel où dorment les agents de l'ICE. La lutte s'organise hein, de manif en manif, mais pour l'instant, c'est pas joli joli ce qu'il se passe aux US.
Et cette semaine, on va faire la deuxième partie de notre émission donc avec les inculpés du 8 décembre 2020. La semaine dernière, souvenez-vous, en tout cas, on rappelle, on peut le dire pour ceux qui n'étaient pas là, eh ben, on a interviewé donc Zvink, Klo et Maé, qui sont donc trois personnes qui ont été impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'affaire du 8 décembre 2020. C'était donc neuf personnes qui ont été interpellées par la DGSI. Pour association de malfaiteurs terroristes, un dossier monté de toutes pièces à partir de notes blanches. Donc la semaine dernière, elle nous expliquait leur arrestation, leur garde à vue au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret et aussi du coup Zvink, qui était le seul interpellé, inculpé des trois personnes qu'on a interviewées, qui du coup a passé 11 mois à Fleury-Mérogis sous le statut de DPS, donc détenu particulièrement surveillé. Voilà. Et cette semaine, on continue donc du coup ce programme, puisqu'on va parler donc tout simplement en fait du procès qui est arrivé au mois d'octobre 2023. Et on va donc on verra un petit peu avec LE le résultat de ce procès, les implications que ça a, notamment pour la vie des personnes qui ont été inculpées. Et on parlera aussi de l'appel à venir qui va arriver donc au printemps. On aura les mois précisément, j'ai oublié, mais c'est au printemps 2026.
Il est 23h05, Minuit Décousu sur Radio Canu.
Depuis le mi-temps des années 2010, la menace terroriste s'est insinuée dans le quotidien des Françaises et des Français. La brutalité et l'imprévisibilité des attaques ont favorisé un climat de peur auquel le récit médiatique participe. Les lois s'enchaînent qui étendent les pouvoirs du renseignement, renforcent et généralisent les formes de surveillance en permettant notamment la collecte d'informations en dehors de tout cadre juridique.
La charge émotionnelle du terrorisme permet de justifier les mesures d'exception au nom d'un intérêt général menacé par un ennemi intérieur. Si le terrorisme est l'enjeu principal du renseignement, les mouvements sociaux deviennent également une cible. L'état d'urgence devient progressivement la norme. Et c'est le profilage des personnes qui est au cœur du dispositif. Il suffit désormais qu'un policier ait des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour qu'une personne puisse être surveillée, suivie, assignée à résidence ou arrêtée.
Sauf que ces raisons sérieuses n'ont aucun cadre défini. Le storytelling policier passe par la rédaction de notes blanches, des documents qui ne permettent ni d'identifier le rédacteur de notes, ni ses sources, ni les moyens par lesquels les renseignements qui y figurent ont été obtenus. Les services de renseignement y décrivent des personnages violents, vivant dans la clandestinité, louches et donc potentiellement effrayants.
En guise d'ennemi intérieur, les flics de la DGSI inventent une menace fantôme faite de gens aux mauvaises lectures, aux mauvaises idées, aux mauvais codes sociaux, qui fréquentent de mauvais amis dans les mauvaises manifs ou les mauvais troquets. Ces notes peuvent n'avoir aucun fondement factuel ou matériel, elles construisent des fictions biographiques, mais elles sont recevables comme preuve dans les instructions du jeu du tribunal.
En peignant le militant, la militante en terroriste, l'antiterro transforme ses notes blanches en poupées de chiffon et réalise du même coup un braquage sémantique, judiciaire et politique. Le ou la terroriste n'est plus celui ou celle qui, au nom d'une cause, s'en prend à des individus à titre d'exemple dans une stratégie de terrorisation aléatoire. Le ou la terroriste est désormais toute personne qui s'en prend aux institutions comme sédiment socio-historique des rapports de force. Les faits ont disparu, c'est l'intention qui compte, quand bien même elle est impossible à démontrer.
Parfois, un juge réalise que le portrait sonne faux, que la poupée de chiffon est une menace fantôme, mais comme son boulot est de protéger les institutions, il condamne sur la base de l'intention que lui proposent les flics.
L'institution judiciaire et policière se croit forte car elle peut broyer celles et ceux qu'elle identifie comme ses ennemis, les terroriser, littéralement. Mais elle est faible car elle est incapable de défendre la démocratie qu'elle prétend incarner. Est-il encore possible de la protéger contre elle-même ?
Pour les sociologues Simon Le Roulet et Julien Long, l'application des mesures exceptionnelles prévues pour la lutte contre le terrorisme aux acteurs des mouvements sociaux est une terrorisation à trois dimensions. Premièrement, elle assujettit les personnes identifiées comme contestataires par le recours à des mesures individuelles. Deuxièmement, elle produit une confusion sémantique entre terroristes et militantes. Troisièmement, elle fait pénétrer la production du personnage du terroriste politique dans le monde judiciaire.
Les inculpés de l'affaire dite du 8 décembre ont fait face à cette triple terrorisation. C'est ce que nous raconte Chloé Sving dans cette seconde émission que Menu Décousu leur consacre.
La glace, il y a nos parcours chaotiques et des asiles de fous. Des mauvaises graines semées aux grandes dames de leurs écoles qui nous promettent sans vergogne un avenir décapité. Poiscaille charcutable, taillable et malléable. Et des flics alcooliques qui attendent que de se mettre à table. Des bâtards de cobayes, voilà ce qu'on a fait de notre sort. T'étonnes pas qu'on s'en aille ailleurs écrire le carnet de bord. Acharnement judiciaire, contrôle musclé. Croire qu'on cherche à plaire serait la thèse la plus erronée. Au milieu de ça rien, on observe de près, de loin, les années qui s'écoulent à cogiter comme des chiens. Les techniques sont variées, certains ont la fibre de boucher et d'autres opèrent en chirurgien confirmé. Il s'agirait de terrorisme et de sabotage, d'intégrisme, d'extrémisme et de brigandage. T'inquiète, ils ont trouvé le moyen de te faire taire à coup de recommandés ou de spots publicitaires. Quelques âmes charitables dans le milieu de la police ne parviendront pas à faire peser le ballon hors du vice. Alors, tu veux que je te réponde quoi? Qu'accomplir son sale boulot relève encore du bon droit. Ferme-la, pas de théorie bien pensante. Je commence à comprendre les règles de ce jeu dont ils sont partie intégrante. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. Force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Alors le procès, il a eu lieu le
7 octobre 2023.
Bonjour, moi c'est Maillé et comité de soutien Ardèche.
Svink, comité de soutien Paris et inculpé aussi.
Moi c'est Clo et comité de soutien Paris qui a été arrêté aussi le 8 décembre 2020 mais relâché sans charge.
Au tribunal de grande instance de Paris, donc le nouveau grand tribunal énormissime, la tour en verre au milieu d'une esplanade gigantesque qu'il a lieu pendant un mois complet en octobre 2023. On a été nombreuses à se déplacer pendant le mois complet pour ce procès des Copaines. Il faut savoir du coup déjà qu'entre les arrestations et le procès, il y a eu des années qui sont écoulées, des années où il y a déjà eu des groupes de soutien du coup qui sont formés, qui sont organisés, etc., qui ont fait des communiqués, des écrits, qui ont beaucoup aidé aussi les inculpés pour l'arrivée du procès.
Appartiennent à l'ultra-gauche selon l'expression du parquet interpellé et plusieurs ont violé les services pour leur activité radicale. Si jamais cette semaine c'est explosé parce que c'est un projet d'attentat terroriste.
Il faut déjà y entrer dans ce gratte-ciel de 160 mètres de haut, 120 000 mètres carrés de surface, droit et transparent. comme la justice.
On voulait proposer, vu qu'on vient de s'échauffer, grâce au slogan lancé par les camarades, de clôturer cette session de prise de parole avec une petite session musicale. C'est une chanson qui s'appelle « Et c'est qui les terroristes ?» Vous pouvez la trouver en page 1 du carnet de chants.
Ce qui est sûr, c'est que ce grand building penche indéniablement à droite. Il faut passer un premier contrôle des sacs, puis un second avec rayon X et portique détecteur de métaux, surveillé par des dizaines de caméras et des policiers armés de fusils d'assaut.
On était dans une énorme salle, il y avait à peu près 300 places, et à savoir qu'on était quasi salle comble pendant le mois. Bon, c'est un petit aparté, on va le dire ici, ça nous tient à cœur, j'ai l'impression. On a constaté que sur le mois, on était plus de 80% de soutien féminin, effectivement. On le relève quand même, voilà. Sachant que, on précise, sur les 7 inculpés, il y a uniquement une personne qui est une femme et les autres sont des hommes, voilà. Il faut s'imaginer cette salle comme une pièce de théâtre. Enfin, vraiment, c'est le ressenti de beaucoup de personnes. Pendant ce mois-ci, on a l'impression vraiment d'être dans une pièce de théâtre avec, à chaque fois qu'un inculpé était interrogé sur, au centre de la pièce, debout devant son pupitre, avec en face de lui, la présidente, il y avait deux assesseuses, deux procureurs, et la scribe, qui est la greffière, et derrière, on est, 300 personnes, soutien, et pas que. Donc, il y a aussi des policiers parmi la salle, il y a aussi des journalistes. Au début du procès, on était sur une bonne trentaine de journalistes qui assistaient tous les jours. C'était ensuite, suivant les jours, ça allait, ça venait plus ou moins. Mais on était sur une bonne trentaine au début du procès, sur la fin également. Le déroulé de ce procès était vraiment, comme j'ai dit, une genre de pièce de théâtre avec la présidente qui nous donnait cette impression de maîtresse d'école. On devait se lever quand elle apparaissait, s'asseoir quand on avait l'ordre plus ou moins donné de s'asseoir. Au moindre bruit, elle nous faisait la remarque, trop de bruit, on était mis dehors. Enfin vraiment, une cour d'école gigantesque où on n'a pas le droit de manger, de faire du bruit, de rien faire, juste d'assister aux interrogatoires de nos copains-copines qui se font clairement démonter devant nos yeux. À ce moment-là, faut aussi s'imaginer que sur les premiers rangs, il y a notamment leur famille, leurs proches, et ensuite les soutiens qui remplissent le reste de la salle. Mais il faut aussi se dire qu'à ce moment-là, il y a la famille qui est sur les premiers rangs, aux premières loges de leurs propres enfants ou conjoints-conjointes de l'époque qui se font clairement interroger devant leurs yeux sur leur vie personnelle, privée, familiale. C'est d'une intensité assez dingue. On a tous et toutes le souvenir du premier copain qui est passé à la barre où il a fondu en larmes et clairement on était une grosse partie de la salle à pleurer en même temps que lui. C'est vraiment là on s'est dit ce jour-là qui était le premier jour, le lancement du procès, on s'est dit waouh, ça va être long et waouh, ça va être intense pour tout le monde. Et on a malheureusement assisté à cette scène de théâtre pendant un mois, tous et toutes, à se tenir gentils, à écouter, avec des interrogatoires qui ont duré plusieurs fois jusqu'à 23 heures. Donc ça veut dire qu'on sortait du tribunal tous et toutes à 23 heures. Donc c'est vraiment, il faut s'imaginer des journées très longues d'interrogatoires avec des pauses des fois minimes. Et je vous laisse imaginer l'état des gens en sortant de là. Dessous c'est toutes des inculpés, de leur famille et de nous tous les soutiens derrière. Et ce qui est aussi assez dingue, c'est de se rendre compte qu'au fur et à mesure du procès, des jours qui avancent dans les interrogations, etc., de se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, quoi. En fait, ce qu'on retient contre nos copains là tout de suite, c'est d'un ridicule. Mais parfois, on a même eu des éclats de rire dans la salle du tribunal. C'est pour vous dire à quel point on était sur des clichés ou sur des délires complètement surfaits de la part des procureurs, de la présidente. Voilà, enfin, on est vraiment des fois sur des questions de non-sens et sur un dossier, on a l'impression qu'il est nul, il est ridicule. Et paradoxalement à ça, clairement, on a aussi une forte impression que l'histoire, malgré tout, était déjà préécrite en fait, et que les un mois qu'on a eu droit de clairement pièce de théâtre, en fait c'était juste pour dire on le fait, mais dans l'impression générale c'était que l'histoire était déjà écrite. nos copaines qui passent à la barre, quelle que soit leur réponse, qu'on en rigole ou qu'on en pleure, en fait, ça a duré quand même un mois, même si les pièces et les preuves, entre guillemets, vraiment avec des guillemets retenus contre elle, étaient d'une maigreur mais aberrante, et des fois qui frôlaient clairement le ridicule, mais vraiment le ridicule, et malgré tout, ce sentiment d'histoire déjà préécrite. Et c'est là où se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait là, en fait ? Qu'est-ce qu'elles font là ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Avec ce sentiment de, en fait, ça pourrait être nous. En fait, ça pourrait être n'importe qui à ce moment-là, avec des charges aussi faibles que ça. Et c'est là où on se rend compte de cet énorme jeu bizarre, malsain qu'on a tous vécu.
Les attentes un peu générales de tout le monde, enfin d'être là, des soutiens et tout. Et je pense que c'était aussi un peu le cas pour tous les co-inculpés. Enfin, en tout cas, moi, mon nom, c'était le cas. Donc, on savait qu'il n'y avait pas grand-chose, qu'il ne leur tournait pas grand-chose. Mais en fait, de découvrir vraiment les personnes avec qui tu es inculpé, donc de les voir en chair et en os, enfin, les découvrir littéralement, parce qu'en fait, pendant un mois, tu découvres des gens qui sont dans la même histoire que toi. Et tu as des attentes. Tu te dis, bah, je vais. Enfin, moi aussi, voir c'est quoi l'envers du décor, parce que comme moi, il est passé à la barre, donc je vais voir leur vérité, et je vais voir si c'est une grosse machination, ou s'il y a un peu un fond de vérité. Enfin, tu as des questionnements que du coup, t'attends. Et tu te rends compte, en fait, vraiment, et je pense que tout le monde a eu ce même effet dans la salle, que, ah ouais, mais en fait, c'est vraiment encore plus flop que ce qui était déjà écrit sur le papier flop. Bon, moi, personnellement, ça m'a rassuré, même si il y a eu condamnation, tu dis, waouh, en fait, dans un monde parallèle, j'aurais pu devenir ami avec ces personnes-là. Bon, là, c'est pas possible parce que c'est interdiction judiciaire et puis que, on va dire que c'est des amitiés ratées parce que, bah, même s'il n'y aurait pas d'interdiction, je pense qu'il y a comme ça restera à vie, tu auras toujours un peu un climat de méfiance à dire, ah, si on parle ensemble, on oublie, on dit qu'il n'y a pas d'interdiction, ah, on parle ensemble, on apprend à se connaître un peu plus, il y aura toujours ce petite crainte. Mais tu dis, bah, en fait, je suis dans la sauce avec des gens qui sont normaux, qui payent pas de mine, monsieur, madame, tout le monde, et sous prétexte qu'ils sont militants ou militantes ou affiliés, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, on n'a pas tous le même degré de militantisme et de lecture de grilles politiques actuelles, futures ou passées. Enfin, ça a vraiment permis de que ça soit pour les inculpés, pour les proches, et j'ai envie de dire pour le Kidam, mais surtout les inculpés et les proches, de remettre les pendules à l'heure. Et je pense notamment à B, l'interview qu'il avait fait où il disait que ses parents à la suite de ça, encore plus soutenu, parce qu'en mode, on n'avait pas de doute, mais ça a levé encore plus les doutes qu'on avait.
Il y a aussi quelque chose d'assez incroyable, finalement, il faut quand même le dire, qui s'est passé pendant le procès, c'est que tous et toutes, tous les gens qui sont montés, parce qu'on parle de 300 personnes par jour dans la salle, mais ça a aussi tourné, il y a des gens qui sont repartis, qui sont revenus, etc. Donc il faut s'imaginer que ça fait quand même encore plus de monde. Et aussi, autant il y a des inculpés entre eux qui ne se connaissaient pas d'avant, mais nous, les soutiens, c'est pareil, en fait. Il y a des gens, notamment moi, je me retrouve ici aujourd'hui face à deux personnes en face de moi pour cette émission, que je ne connaissais pas du tout avant le procès. Ni leurs proches, ni leur mère, qu'aujourd'hui je connais. Et ce qui est assez incroyable aussi dans cette histoire, c'est que ce procès a rapproché des gens, mais quels qu'ils soient, en fait, de notre âge, pas notre âge, des familles qui ne se connaissaient pas du tout avant, et a aussi révélé ces soutiens énormes qu'il y a eu à Paris pendant un mois. Et c'est vraiment, je pense, important à soulever, c'était magnifique. C'est le côté. Faut pas l'oublier, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est qu'on s'est rencontrés. Beaucoup de gens se sont rencontrés après les arrestations, des gens qui ne se connaissaient même pas, et il y a eu cet énorme genre de soutien inconditionnel, en fait. C'est nos copains, en fait. Quoi qu'il se passe, c'est, on les connaît, on les connaît pas, on est là, quoi. Et il faut aussi bien dire que pour beaucoup d'entre nous, monter à Paris, c'était pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de complètement incroyable de faire ça. D'être fouillé, d'ailleurs, on va le préciser, ce procès tribunal de grande instance, d'être fouillé tous les jours, des dizaines de fois. Parce qu'à peine on fait une pause café ou une pause clope, qu'est-ce qui se passe ? On est refouillé. À l'entrée de la salle, on est refouillé. Et tout le monde, tout le temps, tous les jours. Et c'est une... Émotionnellement, c'est incroyable aussi ce qui s'est passé en un mois.
Et ça permet aussi, on va dire, on va grossir le trait en disant les différents groupes de soutien, parce que ça déborde aussi des groupes de soutien formels qui existent. Mais ça a permis à tous ces soutiens de se rencontrer et pour une fois, en fait, de dépasser toutes les paranoïas qu'il y a eu en amont et qui ont créé des problèmes d'organisation collective, de défense collective, parce que, les co-inculpés ne se connaissant pas tous, les soutiens c'était la même chose. T'as les paranos, tu dis, ah, est-ce que si je suis soutien, je vais pas me retrouver moi aussi dans la sauce? Donc déjà t'as la peur de soutenir quand c'est ça, t'as la peur de rencontrer avec les autres comités de soutien ou les autres soutiens des autres régions, t'as les difficultés de communication parce que tu te dis potentiellement tout le monde est écouté, tout le monde est pisté et que vu que tu fais un pet de travers ou une phrase, elle va être interprétée, changée, modifiée pour être à charge. Donc en fait, même si t'arrives à rencontrer aux communications, t'as peur. En fait, ça a cassé, ça a libéré un peu ça aussi. Ça a permis de dire, ah, on met des visages sur des noms, on comprend ce qu'un tel ou un tel voulait dire, quelle était sa forme de soutien. Ça a permis aussi de casser cette peur. En fait, paradoxalement, le procès a renforcé les liens, qu'ils soient émotionnels ou les liens de lutte, en fait. Sur le papier, il reste comité, un tel. Mais dans les faits, que ce soit nous à Paris, on soutient tous les autres inculpés, et Ardèche pareil, et les autres régions de France ou à l'international, il y a plus, on soutient tout le monde, mais un peu plus notre copain ou copine, c'est ouais, on y va pour tous, quoi. Et ça, ça a été un effet positif du procès, malgré tout.
Valeureux paysagistes qui plantent des fleurs par-dessus. Le pouvoir de ce pays tient sur une grosse machine à laver. Les émiratiens savent bien comme c'est tortionné retraité. On tient à la baguette, un peuple heureux de travail. 4 générations de permis, c'est sans naturalisation. Des propagandes en liesse, couleur va fenaissesse. Non de cesse de confirmer, nous dire depuis tant d'années. Me parle de cohérence s'il s'agit de marcher droit ou de faire allégeance à des couloirs bien trop étroits. Je sais d'où je viens, où je vais, c'est suffisant pour moi. Et j'ai de leçons à recevoir de personne, dis-toi bien ça. La guerre est froide, voire de basse intensité. Qui souhaite éprouver le contraire prépare ses arguments. Vu la pègre et les requins qui scrutent sur les bas-côtés, pas de raison pour nous de se comporter aimablement. Ils en prennent un pour l'exemple, une centaine de derrière. La dissuasion tient la rampe de l'autre côté de la barrière. C'est au pied du mur pour qu'on ait les vrais goûts. Pour le reste, c'est l'état que je mesurais le contenu du disque dur. Laisse derrière toi ceux qu'on décide de traîner pas dans des guerres intestines entre coups d'eau et coups bas. On a plus le temps pour ce genre de choses et pour le bâton dans les roues. Tu sais ce qu'on propose. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules. Quand la justice dresse ses plus hauts bûchers, que la chasse aux sorcières est ouverte et déclarée. À force de faire peur, ils contrôlent ce qu'ils veulent. Et dans leur collimateur, il leur reste nos sales gueules.
Il faut supporter la condescendance et le mépris de ces gens qui se croient au-dessus de tout et surtout de nous. À commencer par Madame la Présidente, ou devrait-on dire Son Altesse, qui à une personne lui demandant de parler plus fort car elle n'entendait pas, répond « Je ne vous permets pas de m'apostropher de la sorte, passez par un avocat si vous avez quelque chose à me dire. » Et qui prend un plaisir non dissimulé à nous laisser debout devant elle jusqu'au silence complet, avant de nous autoriser à s'asseoir. Bienvenue au collège ou à l'armée. Violence de cette justice complice, dès le départ, qui refuse d'emblée, sans aucune justification, toutes les demandes de la défense pour accéder à des informations retenues par la DGSI.
La justice s'appuie par exemple sur des écoutes, sur des vidéos, sur des notes, sur plein de choses, plein de points. Et quand ces points-là demandent par les avocates à être exposés, c'est-à-dire on demande aux policiers d'intervenir à la barre, par visio, en physique, enfin peu importe la méthode, mais d'intervenir à la barre pour s'expliquer sur tel PV, quand on demande la vidéo, quand on demande les écoutes, parce qu'un avocat avait fait le calcul, il y a 0,1 ou 0,01% des écoutes totales qui sont versées au dossier. Quand tu demandes à écouter les écoutes en salle pour montrer qu'en fait on n'entend rien et que le peu qu'on entend, qu'on comprend, ce n'est pas ce qui est écrit, toutes ces demandes-là sont refusées. Système, enfin, d'abord sont versés au fond, ça veut dire on ne veut pas répondre tout de suite à cette question, on attendra la fin du procès pour répondre à ce qu'ils ont dit. En gros, déjà, on n'a pas envie de répondre à vos demandes, on verra plus tard. Et in fine, c'est un non pour tout. Toutes les demandes sur lesquelles la justice s'appuie pour condamner, donc bah, puisque vous appuyez dessus, on veut que ce soit exposé au public, vu que vous répondez à la justice au nom du peuple, bah le peuple veut entendre. Et c'est un non. Donc voilà, c'est juste l'illustration même que, en fait, la justice, de base, voulait avoir une condamnation, voulait faire, nous ce qu'on interprète comme un exemple pour les autres, pour le monde militant en général. D'ailleurs, ça a été à moitié dit, c'est, au final, les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de projet, pas de groupe, pas de cible, subsistent des intentions. En fait, à quel moment t'arrives à... c'est des intentions supposées. Donc en fait, à quel moment t'arrives à condamner des gens sur des intentions supposées? À partir de là, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Donc il y avait besoin d'une condamnation.
Vraiment, toutes les demandes des avocats, tout a été refusé en bloc. Donc déjà, ça montrait un peu comment allait être le délibéré. Je pense que c'était un des premiers warnings de ce que ça allait être. Et aussi, pour revenir rapidement sur tout ce qui est retranscription et ce genre de choses, donc il y a des écoutes. Ensuite, il y a la DGSI qui a interprété ces écoutes. Bien sûr, c'est biaisé. Et ils ont mis des mots, des fois, quand on entend mal, mais ils ont mis les mots qui les arrangeaient. Les avocats ont demandé à faire des extraits, des écoutes. Alors déjà, ça paraît hyper compliqué dans un tribunal qui date, je crois, de 2019 ou 2018. Enfin, il est super récent. Passer une bande sonore, c'est genre, mais impossible. Complètement impossible. Techniquement, c'est, mais genre, hyper compliqué. Genre, il faut trois techniciens et encore. Je crois qu'après plusieurs heures et plusieurs demandes, il s'est passé plusieurs jours et enfin, il a pu être passé un extrait que personne n'entendait, parce que les haut-parleurs sont tout petits et que du coup on n'entendait pas. Et donc en fait, même ça, les avocats ne pouvaient pas démontrer des choses simples comme regarder cette écoute, personne n'entend ce mot-là, ou voilà. Ils passent sur plein de choses, mais l'impression générale, c'est de ne pas être écoutée. Quand elle a commencé à lire les motivations de son délibéré, j'ai vraiment eu l'impression de l'entendre le tout premier jour, quand elle lisait le rapport du PNAT et du juge d'instruction. Donc, en gros, c'était le tout de départ de « voilà de quoi on vous accuse, ça ». Et en fait, elle a relu exactement la même chose. Donc en fait, on se dit, on revient en arrière. Ça veut dire que les 4 semaines où ils ont démonté point par point, ils se sont expliqués point par point en disant « non, ça, c'est pas ce qu'on entend, ça, je suis pas OK avec ça », les avocats qui démontent en disant « ça, c'est faux », etc. Et en fait, elle relit exactement la même chose. Donc tout ça, comme si ça avait servi à rien, en fait.
Et les peines qui en découlent justement à la suite de ça, le montrent clairement. Une personne sur les 7, du coup, qui n'était pas inscrite au fichier Fijet et qui a pris 2 ans de sursis simple, qui du coup est une personne qui ne fera pas appel. B, qui a pris 3 ans avec un sursis probatoire. M qui a pris 3 ans, dont 15 mois avec sursis probatoire. Il reste à purger 11 mois de bracelet. C qui a pris 3 ans, dont 2 ans avec sursis probatoire. Il reste à purger 8 mois de bracelet. W qui a pris 3 ans, dont 20 mois de sursis probatoire. Reste à purger 12 mois de bracelet. S qui est là avec nous, 4 ans, dont 25 mois avec sursis probatoire. Reste à purger 12 mois de bracelet. Et Libreflow qui a pris 5 ans, dont 30 mois avec sursis probatoire. Il reste à purger 8 mois de bracelet. Et voilà, c'est pas rien, quoi. On est sur quelque chose où tout le monde a été condamné, quoi. Condamné sur, on le rappelle, un procès qui démarre sur des notes blanches. Donc, on n'en sait rien, avec des faits complètement ridicules.
Donc le sursis probatoire, qui est à peu près de 3 ans, on va dire, entre 3 et 4 ans, selon les peines qui ont été données, il y a une obligation de travail, il y a une obligation de suivi de soins psychologiques. Il y a une obligation de suivi de soins, notamment l'addictologie à l'alcool. Il y a une obligation de suivi de déradicalisation. Donc ça, c'est avec le pôle, avec la SPIP. Donc SPIP, c'est conseillère de probation et d'insertion pénitentiaire. Et ensuite, il y a aussi le FIJET.
Fichier de judiciarisation, impossible ce mot à dire, on a compris. Des antécédents terroristes, en gros ça peut durer de 10 à 20 ans. Les 10 premières années, tu pointes au commissariat dont tu dépends tous les 3 mois. Enfin nous concernant, on pointe tous les 3 mois avec justificatif de domicile, enfin tous les justificatifs qui vont bien. Devoir justifier 15 jours à l'avance, enfin jusqu'à 15 jours avant si tu déménages ou si tu pars à l'étranger. Et si tu pars à l'étranger, tu dois dire où est-ce que tu vas résider. Enfin tu dois en fait justifier ta personne et ta condition tous les 3 mois chez les flics pendant 10 ans. Et ça peut être renouvelé encore 10 ans. Donc, dans les calculs, je connais pas les âges des autres, mais en gros, on approchera de la cinquantaine d'années que ce sera la fin. Pour donner à peu près une estimation globale, et tu fais, ça fait long quand même. Donc voilà, tous les 3 mois, en fait, il y a une piqûre de rappel qui te dit, hey, oublie pas, on est sur ton dos. Et forcément, on en revient encore et toujours avec le fameux off, où c'est un peu comme là-va, comme je te pousse, ça va te poser 3-4 questions, l'air de rien pendant que tu signes ton document. Enfin, pareil, dernier contrôle de police aléatoire, ça a duré 10 plombes, parce que t'es fiché S ou FPR, quand t'es sédentéro, et tout peut vite prendre très très vite des proportions assez longues, assez fastidieuses et agaçantes, faut le dire.
Donc juste pour rappel, normalement le FIJET, ça existe depuis 2017, en même temps que, plus ou moins en même temps que la loi SILT, et c'est toutes les personnes en France qui ont été condamnées pour terrorisme qui doivent, qui font partie de ce fichier et qui doivent qui ont les obligations de ce fichier. Mais en même temps, la preuve que c'est un peu aléatoire et qu'ils peuvent le mettre ou ne pas le mettre. Parce que donc là, sur le délibéré, le tribunal a décidé de garder l'association de malfaiteurs terroristes pour toutes les personnes, ou pour les 7 inculpés, mais pour l'un d'entre elles, elle a décidé de ne pas mettre le FIJET. Donc en fait, ça reste aléatoire. Eux, s'ils ont envie de le mettre, ils le mettent. S'ils n'ont pas envie, ils ne le mettent pas. Enfin voilà, ça reste...
On peut mettre du terrorisme sans le FIJET. Ça annonce un peu la couleur. On vous met la condamnation qu'on veut mettre, et en plus, on vous met les suites ou pas, comme ça nous arrange.
Il n'y a jamais eu de projet d'action terroriste, il n'y a jamais eu d'entraînement paramilitaire, il n'y a jamais eu de groupe ni de leader. Toutes ces accusations sont fausses et ont été construites par la DGSI, puis validées par des magistrats qu'on a du mal à dissocier des flics. Ce procès a fait apparaître au grand jour la violence de la DGSI, les méthodes pour obtenir des faux aveux en garde à vue, les PV erronés, les manipulations dans les retranscriptions et la rétention d'informations essentielles, des arrestations au fusil d'assaut, des cagoules sur la tête et des camisoles. Les gardes à vue, les manipulations, les mensonges, les menaces, les drogues pour altérer la conscience, la privation sensorielle et les menaces d'agression sexuelle. Plusieurs de ces agissements sont des crimes dont la DGSI n'aura jamais à répondre. Ce procès aura aussi fait apparaître à quel point le PNAT préfère les aveux sous la torture blanche et la menace que des paroles réfléchies devant un tribunal.
cette décision du tribunal de se déplacer à Duisy, à une heure de Paris, près des voies SNCF, est bien sûr le premier moment fort de ce procès. Pour comprendre les débats du procès qui s'ouvre ce mardi pour 13 jours devant le tribunal correctionnel de Paris, il faut revenir sur un contexte politique.
Les trois... Il n'y a jamais eu une instruction, il n'y a eu qu'une accusation qui s'est réduite avec le temps telle une peau de chagrin. Et aujourd'hui, ce n'est pas le procès des ministres de Carnac, c'est l'autopsie d'un fiasco policier et judiciaire. Il y a un autre élément...
C'est dans une salle surchauffée que cette troisième après-midi d'audience s'est déroulée. Les journalistes sont déjà moins nombreux, ils ont libéré des places. Du coup, des soutiens de Carnac ont pu pénétrer à l'intérieur de la salle d'audience. Et c'est à une audience technique qu'ils ont assisté. Deux experts en électricité et en matériel ferroviaire aidés du représentant de la SNCF.
Qui ont été systématiquement couvertes par les magistrats instructeurs, quels qu'ils soient, puisqu'en l'espèce, il y en a eu six. C'est terminé. Il y a un tribunal qui ne va pas avoir
de s'intéresser à ce qui semble être pourtant la signature d'activistes antinucléaires allemands. Seulement voilà, l'enquête ouverte pour actes de terrorisme piétine. Elle devient minée par des incohérences.
Magistrats, avocats, procureurs et témoins vont pouvoir apprécier les incohérences et manipulations que dénoncent Julien Couba et Hildune Lévy. En attendant, les débats se poursuivent.
La procédure aura pris une décennie. Après l'arrestation dramatique à Carnac en 2008 sous des accusations de terrorisme du groupe gravitant autour de la figure diabolisée de Julien Couba, l'affaire Carnac, après 10 ans de procédure, s'est soldée par un fiasco politique, policier et judiciaire. Le 12 avril 2018, le tribunal annonce la relaxe des inculpés.
Ni le sabotage des lignes SNCF, dont l'accusation reposait presque entièrement sur le PV de filature de Julien Couba et Hildune Lévy, ni l'association de malfaiteurs n'ont pu être prouvés. Malgré les mois de surveillance, les caméras cachées, les écoutes téléphoniques, la DCRI et la SDAT n'ont pas découvert d'éléments irréfutables sur une entente et des projets délictueux. L'acharnement policier et judiciaire ne sera pas parvenu à faire de la ferme du Goutaillou à Carnac un lieu conspiratif et du livre L'insurrection qui vient une preuve.
À l'issue de l'audience du verdict, seul reste quelques accusations. Recel de cartes d'identité volées ou perdues, refus de prélèvement ADN, de prise de photos et d'empreintes. En lisant son jugement, la présidente de la 14e chambre correctionnelle admet.
L'audience a permis de comprendre que le groupe de Carnac était une fiction.
Dans cette affaire, il n'y a pas de fait. Ils et elles ont été arrêtés sur des suspicions d'intention. Et en fait, on n'essaie plus de prouver qu'on n'était pas à un endroit ou quoi. On essaie de prouver qu'on n'avait pas l'intention de...
Bon, il y a des faits reprochés sur des points que personne ne nie. En fait, il y a... Personne ne cherche à nier les choses qui ont été exposées, mais c'est l'interprétation de ce qui est reproché. C'est-à-dire, moi je vais parler que de mon cas du coup, mais moi en tant qu'artificier, et surtout en tant qu'artificier d'effets spéciaux, c'est la petite nuance, j'ai expérimenté beaucoup, je me suis pas caché, oui, j'ai expérimenté. Oui, j'avais du matériel pyrotechnique chez moi. Voilà, c'est ça, je le nie pas, je l'ai pas nié à la barre, etc. Mais... Là où est la différence, c'est que moi j'explique que je fais des tests, j'expérimente pour moi, parce que je dois produire du contenu visuel pour le cinéma, pour des spectacles, etc. Et que je peux avoir des demandes précises ou non, mais j'ai besoin, je crois que j'avais employé le terme portfolio ou un truc comme ça à la barre. Si j'ai besoin d'avoir un peu un contenu, des choses à proposer, si on me demande, bah tiens, je peux te proposer ça, ce qui est galère là, c'est de dire, enfin pas de dire, mais de démontrer que. Mais moi, mes tests, que je ne nie pas, sont là pour vendre du rêve, pas pour aller buter des gens. C'est compliqué, enfin, de dire, je veux pas buter des gens. Enfin, c'est pas compliqué de dire, je veux pas buter des gens, mais c'est compliqué quand on te dit, si, tu veux buter des gens. Ben non, mais si, tu veux buter... En fait, à un moment, comment tu veux prouver quelque chose qui n'existe pas ? J'aurais préféré, en fait, dans l'absolu, comme je dis aux gens qui me connaissent, j'aurais préféré balancer un caillou dans une vitrine. Ça aurait été plus matériel, j'ai envie de dire, waouh. Enfin, ouais, là, t'aurais quelque chose vraiment m'approché, j'aurais fait un gros acte illégal, avec tout ce que tu veux dire autour. Mais ok, là, j'aurais fait un truc... je m'en serais pris aux familles des vitrines, tu vois. Mais là, tu nous mets une intention que j'ai pas, et je sais même pas comment, à part dire je n'ai pas cette intention. En fait, il faut prouver que t'as pas cette intention. C'est pas possible. Je défie quiconque de se défaire d'une accusation immatérielle. Pas les choses, les faits qui sont reprochés, mais c'est des trucs de droit commun qui n'ont rien à voir avec du terrorisme. Condamnez-nous pour du droit commun. Ça fera tout aussi mal, mais c'est du droit commun. C'est pas du terreau. Et c'est ça qui est galère, en fait, à se dépatouiller. Et c'est un peu la machine qui s'auto-alimente, l'antiterrorisme. On part sur des lois d'exception, des moyens policiers d'exception, et tu peux pas partir de cette exceptionnalité. Parce que du coup, une fois qu'on te met cette étiquette terreau et les moyens terreau, genre oui, mais non, mais vu qu'on a utilisé tous ces moyens-là, ça ne peut pas être autre chose que du terreau. Et en fait, mais non, mais en fait, je t'enlève le mot terreau et les mêmes moyens, tu tombes dans le droit commun, en fait, il n'y a rien qui... Mais non, il y a le mot terreau, donc c'est une justice d'exception, des moyens policiers d'exception, une législation d'exception, et en fait, tu ne peux rien faire par rapport à ça. Même les avocates étaient en PLS, en mode, waouh, on a le droit, il faut l'étudier, c'est pas commun... C'est sur des textes précis, spécifiques, avec des fois des définitions floues et super larges. Enfin, tu tombes vraiment dans une justice d'exception. Et là, ce qui a été fort du coup du point de vue de la justice, c'est qu'ils ont réussi à mettre cette justice d'exception dans le cadre, pas du commun, mais dans le cadre... Enfin, pas du commun d'un point de vue législatif, mais du commun d'un point de vue usuel. Parce que ça, on ne l'avait pas précisé, on a été jugé en correctionnel et pas aux assises, à la demande du parquet. Clin d'œil, on est tellement d'hétéros que tu préfères qu'on aille en correctionnel plutôt qu'aux assises avec un jury de professionnels de terreau. Donc en fait, là, on a été jugé dans un tribunal correctionnel pour du terrorisme, alors que normalement, c'est un truc exceptionnel qui devrait aller aux assises avec tout ce qui va avec. Enfin, t'as vu, même moi, je galère à l'expliquer tellement que t'es dans le brouillon du « on justifie l'exceptionnalité par l'exceptionnalité ». Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer.
Entre 2017 et 2021, on est sur une période où il y a beaucoup de lois, de décrets qui sont votés en antiterro, sur la sécurité intérieure, etc. Donc ça s'inscrit vraiment dans cette période, pile dans la période de l'arrestation, quoi. Donc il y a eu la loi SILT en 2017, qui a été votée à la base seulement pendant l'état d'urgence, à la suite des attentats de novembre 2015. Elle devait être en vigueur seulement pendant cet état d'urgence. Et quelques années après, elle a été pérennisée, donc je crois que c'était en juillet 2021, pour qu'elle soit vraiment ancrée maintenant pour toujours. À savoir que juillet 2021, ça faisait à peu près 6-8 mois que les inculpés étaient pour certains encore en prison et d'autres en contrôle judiciaire. Pour nous, en tout cas, ça a ancré le truc de dire bon, c'est un peu mort, quoi. Il y avait ça, il y avait aussi les décrets Darmanin, datent je crois de fin 2020. Ça élargit aussi le fichage, ça élargit la surveillance, etc.
Ça a toujours été le cas dans le législatif français. On pond des lois d'exception qui deviennent ensuite la norme. Bon, là, il y a eu la loi SILT les moyens de l'état d'urgence, parce qu'à l'époque, l'exception, c'était la menace radicale islamiste. Du coup, tout le monde a validé ça en mode « Oui, oui, mais de toute façon, c'est que pour eux. » Mais non, mais une fois que c'est ancré dans la loi, c'est pour tout le monde, en fait. Il n'y a plus d'exception. L'exception, elle n'est que avant que ce soit inscrit. Et on en revient à l'association de l'effeteur et toutes ces lois-là. On part d'une exception qui finit au final pour tout le monde, qui atteint dans un premier temps le monde politique du militantisme, quel que soit le bord, et qui, une fois que ça s'est ancré, atteindra le monde commun. Je pense que, au train où on va, peut-être dans les 10-20 ans à venir, la question sera même plus savoir si t'es militant ou pas militant, tu te fais arrêter pour terreau, ce sera juste t'es une personne lambda qui a parlé un peu trop fort de je ne sais trop quoi. Et tu auras du terreau sur la gueule. Enfin, ça sera devenu un truc comme à un moment ça a failli être le cas avec l'apologie du terrorisme. Je repense quand j'étais en prison, il y a pas mal de gars qui s'étaient mangés des premières peines. Alors les gars, ils ont rien à voir du tout avec des islamistes, hein. Les gars, ils sont pas croyants pour un sou, mais il y a des keufs qui leur pondaient des apologies du terrorisme et ils sont mangés des condamnations gratuites pour ça. Et c'était devenu un peu de la norme facile à ce moment-là. Et je pense que le terrorisme va devenir, l'accusation terroriste va devenir une nouvelle norme dans les années à venir. Enfin, ce ne sera plus une exception, l'exception sera devenue la norme à nouveau. Nous, en gros, on a été condamné donc sur intention supposée, ce qui ouvre une jurisprudence. Si on appelle, on perd. En fait, c'est pour ça qu'on suppose que c'est un peu un... Enfin, ça reste des suppositions et on n'est pas tous et toutes d'accord là-dessus, mais que c'était un peu expérimental sur nous. Mais ça ouvre la possibilité dans le futur à pouvoir condamner des gens pour intention terroriste sans se prendre la tête. Je vais prendre l'exemple du cru local Lagal. Il y a eu des longues procédures juridiques pour les dissoudre, etc., etc. Donc là, des personnes qui se connaissaient. Nous, on se connaissait pas tous. On a été condamnés, association de malfaiteurs, avec intention. Donc tu peux imaginer que demain, des groupes politiques de gens avec affinité ou affiliés ou pas se retrouvent dans la sauce avec une accusation d'intention terroriste. Et là, du coup, juridiquement parlant, ce sera vachement plus simple de les incriminer et de les faire chier que si tu dois passer par des procédures légales habituelles. Et en fait, c'est en ça que c'est un danger et que c'est surtout là-dessus qu'on essaye d'alerter généralement le monde un peu militant. C'est nous, c'est bon, c'est fait. On est dans la sauce, on a été condamné, on espère être relaxé, mais... Voilà, c'est fait, ça fait chier, ça fait mal, on en pleure encore aujourd'hui. Mais demain, c'est vous tous et vous toutes. Ça veut dire, c'est qui? C'est les prochains malfaiteurs terroristes? C'est les gens qui montent un piquet de grève? C'est les gens qui s'organisent pour dénoncer une violence quelconque? C'est des gens qui font de l'antifascisme? Et quand tu vois comment un peu ça tourne un peu en Europe, tu dis ça peut être vachement plus simple, en fait, juridiquement parlant, d'arrêter et de séquestrer des gens avec avec ce moyen, le dispositif légal. Tu dis bah c'est la fête du slip, en fait. On sait pas trop, mais bon, vu que t'es un gauchiste ou un anarchiste, t'as forcément des intentions, donc dans le doute t'es un terreau. En fait, on pourrait faire le raccourci très très vite et c'est en ça que c'est un danger pour le monde militant. Ça serait bien que tout le monde prenne un peu conscience de ça. Nous, c'était la DGSI, mais actuellement, enfin depuis quelques années, on voit que c'est l'ASDAT qui opère la sous-direction antiterroriste et qui arrête qui? Des militantes et des militants. J'ai même plus toutes les affaires en tête parce qu'il commence à avoir un bon petit paquet, l'air de rien. Presque à se demander si finalement l'ASDAT c'est pas plus simple à utiliser que la DGSI au final, si c'est pas encore un moyen. Bon, on a testé la DGSI, ça fonctionne, mais c'est fastidieux. L'ASDAT, ils ont les mêmes moyens, allez hop, on y va, c'est plus efficace, plus rapide et ça va pas en criminalité, du coup ça reste dans le droit commun, mais avec les moyens de l'antiterrorisme. Donc un moyen répressif.
C'est ça en fait, ce qui change dans cette affaire-là, que ce soit les inculpés du Limousin ou le soulèvement de la terre, c'est que les accusations ne sont pas terroristes, mais par contre les moyens utilisés pour les surveiller, pour faire les filatures, etc., elles sont les moyens de l'ASDAT qui sont les moyens terroristes. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à des études de dossiers qui ont duré pendant des mois, notamment je pense à l'usine Lafarge à Marseille pour les soulèvements de la terre, où il y a eu je crois plusieurs mois de, ils ont regardé des vidéos des bus et de géolocalisation, enfin c'est genre toute une équipe qui a été de l'ASDAT qui a étudié ce dossier pendant des mois. Donc c'est les moyens de l'antiterro, mais pour des accusations qui sont pas terroristes, parce qu'ils peuvent pas se permettre encore de mettre une accusation terroriste à tout bout de champ, enfin à tous les, pour toutes ces cas-là, les moyens de surveillance et de répression, en tout cas, sont les mêmes. Et donc on voit vraiment vers quoi ça tend pour ces prochaines années, quoi.
Bah, on est dans la définition même d'une police politique, en fait. C'est, on peut pas vous attaquer répressivement sur le plan politique parce que ça se fait pas, enfin ça se fait plus. Par contre, bon, on va cibler les militants avec, comment on disait, le moyen de l'antiterro, et ça permet de glisser, commencer à glisser le champ lexical de regardez, militantisme égale terrorisme. Ça glisse tout doucement. Et je pense que plus il y aura d'arrestations, plus il y aura d'affaires révélées par la SDAT, plus ça justifiera dans le langage politique professionnel de dire regardez, à chaque fois, c'est l'antiterro qui agit sur les groupes politiques. Est-ce qu'on pourrait pas conclure que les militants et militantes sont en fait des terroristes? Je pense que la finalité, elle va se finir par là, parce que c'est le truc qui s'auto-alimente. Du coup, sur le long terme, on va justifier de toutes ces arrestations-là, toutes ces affaires-là, pour dire, mais regardez, vu que c'est l'antiterro qui agit, c'est du terreau.
Ça a été répété tout au long du procès. Ceci n'est pas un procès politique, non, pas du tout.
Le terrorisme, c'est les nouveaux procès politiques qui ont déjà commencé, d'ailleurs pas que l'extrême gauche, hein, l'extrême droite ça a commencé aussi. Ce sont les nouveaux procès politiques, ça sera le terrorisme. Et tout le monde prenne bien conscience que c'est pas la fête du slip, enfin, qu'il faut vraiment s'armer juridiquement contre ça, quoi. Alors, il faut prendre ses dispositions et empêcher que des jurisprudences passent, que des nouvelles lois passent, enfin. C'est du travail de fond, ça. On peut pas bosser là-dessus dans l'urgence. C'est pas, je vais faire un stéréotype, mais c'est pas un piquet de grève ou une manif qui va empêcher ça. C'est du travail de fond, de longue haleine, fastidieux long, mais au final, c'est peut-être ton pote ou ta pote qui demain va se faire péter pour terrorisme, alors qu'il y aura du rien. Et en fait, tu préfères quoi? Tu préfères t'investir, empêcher que ces lois-là passent et naissent, pour pas retrouver ton pote en prison, ou tu préfères perdre du temps à aller voir tes potes en prison? En fait, je pense qu'il y a une petite conscience à prendre là-dessus, qu'au final, ouais, il faut se bouger le cul, clairement, pour vous. Du coup, plus pour nous, mais pour vous.
Ce procès s'inscrit dans un contexte de répression violente des luttes et contestations sociales en France, tant physiquement par des crimes contre les personnes que symboliquement par la qualification terroriste des opposants politiques. L'affaire du 8 décembre va encore plus loin. L'enjeu principal est non pas d'étendre le terrorisme au sabotage, mais plutôt de créer des possibilités légales de réprimer des expressions politiques révolutionnaires dans le cadre du pré-terrorisme. C'est le crime de la pensée qu'on tente de réintroduire ici. Nous sommes toutes concernées.
Des manifestants s'introduisent sur le site d'une usine Lafarge et provoquent d'importants dégâts. L'usine de Bouc-Bélair, dans les Bouches-du-Rhône, a été ciblée samedi par une centaine de militants écologistes vêtus de combinaisons blanches intégrales. Lafarge a dénoncé une action d'une violence inédite qui a conduit à de très importants dégâts sur les installations, les bâtiments et les véhicules. En une quinzaine de minutes, des bureaux ont été endommagés, des ateliers dégradés, des engins de chantier incendiés, mais aussi des câbles sectionnés.
Au tribunal judiciaire d'Evreux, dans l'Eure, se tient aujourd'hui et demain le procès Lafarge. Sur le banc des accusés, 9 militants écologistes qui s'étaient introduits le 10 décembre 2023 sur le site du bétonnier Lafarge à Val-de-Reuil.
Ma cliente, la société Lafarge Béton, souhaite être indemnisée du préjudice qu'elle a subi.
Quant aux 7 avocats de la Défense, ce matin, ils ont dénoncé de nombreuses irrégularités dans les procédures. Puis cet après-midi, les prévenus ont été appelés à la barre. On a pu voir s'avancer un retraité de 77 ans, canne à la main, une ancienne institutrice, figure politique de la ville d'Alençon, ou encore un professeur de musique. Tous ont adopté la même stratégie, garder le silence, pas de réponse aux questions. En revanche, chacun avait préparé une déclaration pour évoquer leur militantisme, leur défense de l'écologie, mais aussi pour décrire leurs arrestations, les perquisitions, les gardes à vue. Dû dans cette affaire, c'est à la SDAT, sous direction antiterroriste, que l'enquête a été confiée. Et c'est le principal axe de défense des prévenus, la criminalisation de leur combat. Je cite, « J'ai des convictions politiques, mais je ne suis pas une terroriste. Il n'est pas normal que j'ai été confronté à l'antiterrorisme. » Les mots d'une des prévenues qui a ensuite décrit le choc de son interpellation, sa détention de plus de 80 heures dans une cave. Et il y a quelques minutes, un autre prévenu a dénoncé, je cite, « une violence d'État ubuesque et absurde ».
Le procès contre les 9 militants écolos arrêtés pour le sabotage de Lafarge a eu lieu les 19 et 20 décembre 2024. Ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, dégradation aggravée, mais aussi séquestration, à savoir la séquestration pendant 15 minutes du gardien du site de l'usine. Ce dernier chef d'accusation n'a finalement pas été retenu par le tribunal et parmi les 9 inculpés, 5 sont relaxés et 3 sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 6, 1 et 10 mois avec sursis.
L'enquête avait été menée par la SDAT ou SDAT sous direction antiterroriste, mais le procès a révélé de nombreux problèmes de procédure et le tribunal a de fait invalidé des pans entiers du dossier. Par exemple, l'utilisation du logiciel de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, dit LAPI, pour identifier les suspects, faites sans réquisition, de même que l'exploitation de certaines données de connexion.
Mais malgré les déclarations du procureur qui a affirmé qu'il n'avait jamais été question de considérer les prévenus comme des terroristes ni même des délinquants, et malgré des peines prononcées beaucoup plus légères que celles encourues, le procès est lourd de conséquences.
L'avocate Marie-Milie l'a rappelé, cette enquête avait pour but d'alimenter les fichiers de police et la documentation des services partenaires. Quelle que soit l'issue de cette audience, le but a été atteint, puisqu'avec ces milliers d'informations collectées sur ces sympathisants des combats des soulèvements de la terre, les services de police sont repus.
Repart pour la suite du soutien, le procès en appel pour 6 d'entre eux qui vont faire appel, et on repart avec des soutiens, on va pas se mentir, épuisés déjà, des années qui viennent de passer, épuisés avec des fois démunis par rapport à tous les moyens qu'on a essayé de mettre en œuvre, les écrits, l'abondance d'informations, de discussions avec les avocats, avocates, une abondance d'informations, alors aussi préciser les milliers de pages du dossier. Mais les milliers, on est à plus de 8000 pages de dossier, juste le dossier, à prendre en main, c'est-à-dire à essayer de comprendre, à lire entre les lignes, à fouiller, à reposer des questions. Enfin, c'est un travail titanesque. Je ne sais pas s'il y a un avocat qui a lu les 10 000 pages du dossier en intégralité, en fait. Et on est vraiment sur un travail, une masse de travail complètement dingue, qui a quand même épuisé aussi émotionnellement et intellectuellement beaucoup de gens. Et je pense pas que pour moi à ce moment-là, parce que c'est intense. Et il y a eu le procès, ok, condamnation, et c'est reparti pour un tour. Hey, don't you think it's strange? On se relance de nouveau dans une machine de lutte et de. Avec l'impression qu'on a déjà donné beaucoup de choses. Alors, tout a été presque dit pendant un mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, il y a aussi cette forme de fatigue. Et en même temps, on est toujours là pour les copains. Clairement, on lâche rien. Ça, c'est clair et net. Mais du coup, waouh, qu'est-ce qu'on fait en plus encore? Et voilà. Mais on est toujours là. Mais il faut quand même pas oublier que ça fait des années que ça dure. Et c'est pas fini.
Ça va permettre un peu de poser une pseudo-conclusion. En fait, là, l'intérêt du procès, hormis de vouloir être relaxé et quand même réussir à démontrer, parce qu'il va falloir démontrer qu'on n'a jamais eu d'intention, c'est de casser cette potentielle jurisprudence, mais c'est surtout aussi, c'est pour ça qu'on est là chez vous aujourd'hui, et merci encore, c'est parler au monde militant et dire, comme je disais tout à l'heure, les prochains, c'est vous. En fait, on ouvre le débat sur comment vous emparer de la question de l'anti-terro pour vous, pour les camarades, parce que ça va arriver. Donc déjà, la première chose que j'invite tous les gens, c'est à s'emparer de la question de l'antiterrorisme et des conséquences sur le monde militant. Ça, c'est la priorité. Deuxième chose auquel on invite les gens, alors certes, c'est se mobiliser pour nous aux dates du procès qu'on va donner, mais du coup, nous, de notre côté, on invite les gens à se mobiliser devant soit le tribunal d'appel de Paris, donc au centre de Paris, soit à se mobiliser devant leurs tribunaux locaux. Parce qu'en fait, c'est vous, demain, qui serez dans vos tribunaux locaux pour terrorisme. Donc, en fait, vous poussez vos conseils juridiques, vos avocats, avocates, vos groupes de soutien juridique, vos légal team ou légal ceci, cela, à s'emparer de cette question et vos groupes politiques, que ce soit syndicats, associations ou autres, s'emparer de cette question dès maintenant. En fait, l'urgence, elle est là. C'est emparez-vous de cette question pour pas se laisser déborder par l'antiterrorisme, pour pas que ça vous arrive et par extension nous soutenir parce que bah, si on gagne, on aura retardé l'effet. Mais les effets de l'antiterrorisme vont arriver tôt ou tard sur tout le monde, sur le monde militant. Donc il faut vraiment que tout le monde s'empare de cette question au-delà des... J'ai envie de dire même, on met un peu de côté nos petites disparités de pointillage entre anarchistes, libertaires, communistes, révolutionnaires, etc. Enfin, à un moment, on est dans la même sauce. Enfin, il faut s'emparer de cette question-là et c'est le plus important.
Vous appelle du 4 au 22 mai 2026 à venir soutenir du coup au tribunal de la Cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Il y aura certainement des rassemblements qui seront mis sur le blog. Donc déjà le premier jour, le 4 mai, clairement, il y aura un rassemblement. Et il y aura probablement aussi des événements au mois d'avril, quelques semaines avant, des événements de soutien, des événements de solidarité. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le blog où tout sera noté.
C'est déjà la fin de Minuit Décousu pour cette semaine et on clôt du coup ce double programme sur l'affaire du 8 décembre 2020. On remercie chaleureusement donc du coup Claude, Maë et Svink pour leur long entretien qu'ils nous ont accordé fin décembre. On est super heureux et heureuse de les avoir reçus au micro. Sachez que du coup les dates du procès en appel, ce sera du 4 au 22 mai prochain pour se mobiliser. D'ici là, vous pouvez aussi aller checker donc leur site, c'est soutien aux inculpés du 8 décembre.noblog.org. Et aussi on fait un petit big up aux camarades du podcast Avis de Tempête, à qui on a piqué les petits sons de devant le tribunal en 2023.
Minuit Décousu, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve mardi prochain à 23h sur les ondes rebelles de Radio Canu et sur les radios camarades qui nous diffusent.
Et puisque personne ne le fera à notre place, protégeons-nous des excès de pouvoir de la police et de la justice.
Il y a des gouvernants qui voient du terrorisme partout. Il y a des militants qui voient de l'administration partout. Mais quand on s'arrête et qu'on y regarde de plus près, le schéma est orwellien, la transposition assurée. L'appui des gouvernants est de s'assurer le soutien de la population du bas, un pacte de guerre sans fin. C'est le principe de l'union sacrée en temps de guerre. Ceux qui contestent sont accusés de soutien adversaire. Quand la magabondisserie, ça passe sous sa potentielle.
Ils entendent du coup alors qu'Al-Qaïda a toutes les chaînes.
Beaucoup l'ont déjà mis au top, c'est des massacres de masse. Pour un vrai pas de l'État, les terroristes se vont de l'âge. Ils traitent des rigoles de la mort, alors pas qu'un raccourci normal. La bataille négative, on portait pas un tour de passe-passe. La solution ultime, c'est les héros envoyés tout ça. Ils dehors à l'intérieur, à vérifier ces masses médias. La guerre c'est l'armée, la bataille de liberté. C'est le savoir, il faut soutenir le pouvoir. Derrière ceux qui le défient, la terroriste va se cacher. Dans les rangs de l'antifront, on pense, si de le manquer c'est vrai.
Cette terre est tout un danger, putain d'instauré,
putain d'infiltré.
à écouter les militants, on se pose même pas la question. Tellement leur rhétorique manque de jugement d'imagination. C'est juste conserver son but par la dissociation.
Transposer ces pires dates dans une politique de gestion. Tout y a la guerre, tout viole à la frustration de la police.
Et nous sommes pour le monde, de nous qui a des cœurs.
On en a aperçu un jour en voisin sur le bras d'un casseur. La théorie est belle, mais tout est manipulateur.
La stérilité de la contestation des cas. Les orgasmes organiques pour empêcher toute confrontation.
On va donner aux hommes plus
la manipulation.
Si certains se contentent, les autres appellent à la délation.
Elles seront plus leur monde aussi de manifestation.
Dis-moi, qui fait le jeu du pouvoir? Qui reprend le discours ambiant? Qui joue le rôle du bâtard? Qui appelle à balancer? Qui tient la main au tourné? Qui vient vous en assurer que tout va bien se passer? Stérilisant les maladies.
Y'a des militants limités à l'intermittence de la contestation.
Sur la frustration et à la manipulation.
La champion de massacre de ma toute catégorie.
Sur le terrorisme, la combat de rébellion.
Y'a des combats sous l'homme terroriste. Un double pas de police est manipulé. Dans les crises intéressantes, on est le black bloc terroriste. Infiltré par la police et manipulé par les extraterrestres.
Black bloc terroriste, infiltré par la police et manipulé par les extraterrestres. Taliban, l'anti-France, l'art.